RFI.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle des fratries disloquées. Quand la famille explose, il arrive que les frères et les sœurs soient séparés. En France, une loi prévoit la protection du lien fraternel en cas de placement des enfants. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué. Et il n'existe pas beaucoup de chiffres précis sur ces questions. C'est dire si le problème est encore trop souvent ignoré des pouvoirs publics. Nous allons en parler avec nos invités de cette séparation, souvent des frères et des sœurs, vécue comme une double peine. Et nous allons voir comment on peut préserver le lien fraternel aussi quand les familles sont disloquées. Avec nous, en liaison duplex, grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence, Nathalie Chapon, bonjour.
Oui, bonjour.
Nathalie Chapon, vous êtes sociologue, spécialiste de la protection de l'enfance à l'université d'Aix-Marseille. Également dans notre studio à Paris, Alexandra Avrilizine.
Oui.
Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Vous êtes avocate pénaliste, vous intervenez régulièrement dans des affaires de droit de la famille. Perrine Gallet, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez l'ONG SOS Village d'Enfants, vous êtes directrice de village à Marly-les-Valenciennes, c'est dans le nord de la France. Cette ONG est née dans l'Europe dévastée de l'après-guerre, qui avait 2 millions d'orphelins sur les bras à l'époque. Et cette ONG s'est donnée pour mission justement de regrouper les fratries pour leur permettre de grandir ensemble sur le long terme. Et aujourd'hui, vous êtes présent dans 135 pays ou territoires. On sera également en ligne avec Essouna Bakoussam Manzinika, qui est directrice de SOS Village d'Enfants au Togo. Et puis quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous si vous avez été séparés enfants de votre fratrie, quelles sont vos relations aujourd'hui avec votre famille, ou si vos propres enfants sont dispersés dans d'autres familles, appelez-nous pour nous parler de la situation et du lien familial. 33 1 84 22 71 71, c'est aussi notre téléphone WhatsApp, vous pouvez donc nous appeler gratuitement, nous laisser également des messages écrits, ne laissez pas de messages audio, l'émission est en direct, on a démarré, évidemment on a envie de dialoguer en direct avec vous.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Alexandra Avrilizine, Perrine Gallet, Nathalie Chapon, j'aimerais que vous nous disiez aujourd'hui finalement quelle est la situation. Est-ce que dans quel cas de figure des fratries se retrouvent séparées? Quelles sont les situations les plus fréquentes, Nathalie Chapon?
Les situations les plus fréquentes, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve avec des fratries de 5 ou 6 enfants, c'est compliqué pour l'aide sociale à l'enfance de placer ces enfants ensemble. Et donc, très souvent, ils sont séparés. Ça, c'est une évidence. Après, pour la question des fratries de 2 enfants, c'est aussi compliqué. Ça dépend de la place qu'on peut avoir dans des familles d'accueil et dans des établissements aussi. Et puis, en France, on a, depuis la loi de 96, on doit placer les fratries ensemble. Or, on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Voilà, qu'on se retrouve confronté à des situations où les enfants sont séparés et se retrouvent certains dans des familles d'accueil, d'autres dans des établissements. Voilà, et ensuite le lien est recréé en dehors de l'institution, si vous voulez.
C'est ça. Que dit exactement la loi de 1996? Quelle est l'obligation pour le juge des enfants?
Alors, la loi de 1996, c'est une loi qui est très intéressante parce qu'en fait, elle émane de la volonté des enfants.
Oui, du Parlement des enfants. Oui.
Voilà, donc ça, c'est important.
Parce qu'il est rare qu'on écoute les enfants, il faut bien le dire.
Oui, et c'est important parce que c'est vraiment une demande de la part des enfants, de rester ensemble et d'être confiés ensemble. Or, aujourd'hui, on se rend compte que cette loi de 96, qui a été d'ailleurs réaffirmée dans la loi du 14 mars 2016, comme une condition, il est dit dans la loi de 2016 de veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient maintenus dans l'intérêt de l'enfant. Donc, 96, on a une position demandée par les enfants. enfants. 2016, on réitère cette même nécessité de conserver ces liens fraternels dans les placements. Or, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a deux positions, en fait. Il y a des partisans du placement global de la fratrie, c'est-à-dire qu'on va tout mettre en œuvre pour pouvoir placer les enfants ensemble, et ça, on le retrouve notamment avec vos deux invités, avec SOS Village d'Enfants, qui sont vraiment sur cette posture-là. Et puis, on a quand même des partisans des placements séparés des fratries.
Voilà, sur quel argument, finalement, quand la fratrie n'est pas un danger pour l'enfant? On est bien d'accord que dans des cas d'inceste, évidemment que le juge des enfants va demander un placement de l'enfant seul s'il est menacé d'être agressé sexuellement par un frère ou par une sœur, bien évidemment. Mais en dehors de ces cas-là, pourquoi il y a des arguments en faveur de la séparation des frères et des sœurs?
Alors, il n'y a pas des arguments en faveur des frères et sœurs, c'est-à-dire qu'on se rend compte que, de fait, les frères et sœurs sont séparés, déjà. À chaque fois, lorsqu'il y a des séparations, que ce soit le cadre judiciaire, législatif, et que ce soit le cadre institutionnel, tous avancent l'intérêt de l'enfant. Donc, ils vont tous agir dans l'intérêt de l'enfant. Sauf qu'enfin, on se rend compte que c'est une grille. L'intérêt de l'enfant dépend vraiment de chacun. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on y met
Places libres pour placer l'enfant par l'aide sociale à l'enfance. Parce qu'il y a quand même le principe de réalité de l'administration française.
Exactement. Mais il n'y a pas qu'en France, de toute manière. Je veux dire, la problématique des places dans les familles d'accueil qui ont de toute façon un agrément pour trois, donc déjà c'est limité, se pose de toute façon. Et puis ensuite, également, dans les établissements. Il n'y a pas vraiment d'argument en faveur de la séparation des fratries. Il y a toujours une justification de la séparation. La justification de la séparation, elle est souvent liée à un problème de positionnement de l'enfant, à des rivalités au sein de la fratrie, vous voyez, et donc des inégalités, des comportements parentalisés chez les aînés. Et donc, on va justifier la séparation des fratries à partir de l'ensemble de ces éléments-là.
Des comportements parentalisés chez les aînés, pour parler simple, c'est quand la famille est dans une situation compliquée, soit de grande pauvreté, soit de chaos, et que les aînés se sentent investis de jouer au papa ou à la maman pour protéger les plus petits, et c'est pas facile du coup pour eux de se construire leur propre vie, c'est ça que vous voulez dire?
Ouais. Exactement. Et qui vont prendre la place, y compris la parole des frères et sœurs.
Et c'est un poids, évidemment, sur les épaules, quand on se sent investi de cette mission de s'occuper de ses petits frères et de ses petites sœurs. Alexandra Avrilizine, il y a quand même des situations aussi moins dramatiques, des cas de divorce où les frères et les sœurs sont séparés.
Heureusement qu'on n'est pas toujours dans des situations extrêmes. Alors après, dans des cas de divorce avec des séparations, je pense que quand même, là on parle, en cas de divorce, c'est le juge aux affaires familiales et on n'est plus dans les cas extrêmes de placement.
Ça dépend plus du juge des enfants.
Voilà,
dans ces
exactement.
Cas-là.
Mais en principe, quand même, le juge aux affaires familiales, lui, d'autorité, ne va pas prendre une décision de séparation de fratrie.
Il faut que les enfants en expriment le désir. Par exemple, moi, j'ai plutôt envie d'aller chez mon papa.
Ou qu'il y ait vraiment un accord aussi des parents sur le fait qu'il y ait une séparation de la fratrie. Que, par exemple, je ne sais pas, l'aîné aille avec le papa, le plus petit reste avec la maman.
Parce que c'est un garçon, qu'il est un peu turbulent.
Qu'il a besoin d'un peu plus d'autorité, etc. Oui. Et en principe, le juge aux affaires familiales, lorsqu'il prononce dans son jugement une séparation de fratrie, c'est que soit il y a un accord des parents, soit un souhait de la fratrie, mais d'autorité, s'il n'y a aucun accord ni des enfants, ni des parents, le juge aux affaires familiales, lui, ne va pas aller vers ce domaine-là, parce que lui n'intervient pas dans des situations de danger. Alors, contrairement au juge des enfants qui, lui, va prendre cette décision parce qu'il y a une réelle situation de danger.
Ce qui veut dire qu'on peut avoir des fratries séparées sans qu'on se dise vraiment que ça pose un problème. Et toute la question est quelles sont les conséquences pour les enfants, quelle que soit la situation d'ailleurs. On vous donne la parole si vous avez été concerné dans le passé, si vous avez été séparé de vos frères et sœurs. Vous nous appelez surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Un auditeur nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Janvier.
Bonjour Emmanuel Bastide et bonjour à 7 milliards de voisins.
Janvier, vous êtes étudiant aujourd'hui, vous avez 27 ans et quand vous avez eu 10 ans, vous avez été séparé de vos frères et sœurs. Je crois que vous ne les avez pas du tout vus pendant 10 ans. Racontez-nous ce qui s'est passé dans votre famille.
J'étais séparé de mes frères et sœurs quand il y avait le décès de mon père qui s'est survenu. Donc après, le conseil de la famille a décidé que je puisse être avec un autre parent, c'est-à-dire dans la famille d'accueil. Mmh. Donc j'avais quitté mes frères et sœurs pour des raisons d'études et suite aussi au décès de mon père. Mmh. Et quand je me suis trouvé dans la nouvelle famille, la famille d'accueil, les premiers jours n'étaient pas faciles parce que j'avais toujours des ressentiments, j'avais de la mélancolie. Ce n'était pas facile pour que je puisse m'intégrer dans la nouvelle famille. Mmh. Mais quand j'étais avec mes frères, avant, on vivait la cordialité, on vivait la joie. Tout le temps, c'était l'amour. Voilà, on se taquinait, on s'amusait et autres. Mmh. Mais pendant mes années de séparation, oui.
Et donc, vous avez eu l'impression, quand vous êtes parti, vous n'avez pas retrouvé une nouvelle fratrie dans cette famille d'accueil. Vous étiez toujours nostalgique de vos frères et sœurs perdus.
Effectivement, ce n'était pas très facile au début parce que les enfants de mon tuteur de la famille d'accueil n'étaient pas aussi prêts à vraiment m'accepter comme leurs frères, comme leurs parents également. Donc, j'avais un sentiment de mélancolie, de nostalgie envers mes frères que je les ai laissés. Mm. Et pendant les 10 années que j'ai passé en dehors de mes frères et sœurs, j'avais vraiment un sentiment de frustration. Mm. Mais comme c'était la décision du conseil de famille, j'étais obligé de me soumettre et aussi pour des raisons d'études.
Oui, c'est ça. Et pendant 10 ans, vous n'avez jamais vu vos frères et sœurs?
Pendant les 10 ans, je n'avais jamais vu mes frères et sœurs directs, c'est-à-dire mes frères et sœurs biologiques. Mm-hmm. Donc j'avais passé tout mon temps à rester dans la famille
d'accueil.
Voilà, d'accueil. Et comme en Afrique, il va falloir que l'enfant reste très loin pendant des années avant qu'il puisse regagner peut-être sa mère ou ses frères et sœurs pour des raisons aussi de ne pas soumettre l'enfant à certaines... Mm-hmm. À certaines nonchalances de l'éducation de la mère, parce que la mère éduque avec l'affectivité. L'enfant ne va pas être vraiment un homme digne pour affronter les difficultés, les épreuves de la vie. C'est comme ça qu'ils m'ont retenu pendant 10 ans d'abord, avant, afin que je puisse repartir voir mes frères et sœurs. Oui. Mais quand j'étais reparti pour les voir, c'était vraiment toute une liesse, c'était toute une joie collective. Mm. Et la famille, mes frères et sœurs étaient très contents de moi, mais quelques-uns aussi étaient mécontents parce que je les ai laissés pendant des années et ils ont à peine perdu même déjà ma physionomie. Mais
c'est ça, le souvenir.
Parce que je suis en train d'étudier. Mm.
Avec le recul aujourd'hui, comment vous analysez ce que vous avez vécu? Est-ce que vous avez le sentiment que ça a été un énorme manque pour vous construire en tant qu'homme, Janvier?
Oui, dans certains cas, c'est un énorme manque pour moi, mais moi, je trouve vraiment idéal d'être séparé de ses frères et sœurs pour des raisons aussi fondées, c'est-à-dire l'étude, et je ne ressens pas vraiment un énorme manque pour moi parce que là où je suis, je me construis déjà dans la nouvelle famille aussi m'éduque avec les valeurs qu'il faut pour que je puisse aussi devenir quelqu'un dans la vie. Mais cette séparation, parce que la fraternité, c'est d'abord authentique et comme cet amour naturel, j'ai vraiment manqué à cet amour
naturel. Ça, vous ne l'avez pas eu, oui. Vous ne l'avez pas eu, cette fraternité. Mais vous, néanmoins, vous ne nourrissez pas de rancœur dans ce que j'entends, Janvier.
Je ne nourris pas assez de rancœur, sauf que certains frères qui sont mécontents de moi, j'avais aussi un sentiment de répulsion, c'est-à-dire je ne les accepte pas aussi à bras ouverts, mais certains qui sont très contents de moi, je les accueille aussi. Et autres, donc il y a une résistance aussi de ma part pour aussi entrer en connexion très rapidement avec certains de mes frères.
On voit bien que les relations aujourd'hui avec vos frères et sœurs que vous n'avez pas vus pendant 10 ans sont compliquées avec certains, hein, pour ne pas dire inexistantes. Merci Janvier en tout cas de nous avoir appelé. Bien sûr, vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. J'aimerais que vous nous expliquiez bien les uns et les autres. Perrine Gallet, vous êtes bien placée puisque vous dirigez un village SOS Village d'Enfants dans le nord de la France. Quelles sont les conséquences pour les enfants quand les enfants grandissent loin de leurs frères et sœurs parce que la famille a éclaté?
Alors, d'abord, prendre en considération qu'une situation de placement, quelle qu'elle soit, elle est toujours douloureuse pour un enfant. C'est le fait de pouvoir être placé en fratrie pour les enfants, c'est effectivement quelque chose de très important parce qu'ils vont pouvoir se souder autour de cette difficulté et ne pas être isolés autour de la situation de placement.
Et puis parce qu'ils ont vécu une situation commune, surtout.
Et puis parce qu'ils ont vécu une situation commune, qui sont... Alors, puisqu'on en arrive effectivement à des raisons de placement, qui sont des situations complexes et souvent difficiles et douloureuses.
Ouais. Nathalie Chapon, est-ce qu'aujourd'hui on sait dire quelles sont les conséquences pour ces enfants, pour ces fratries qui sont éclatées ?
Est-ce qu'on sait dire ? C'est-à-dire que c'est les recherches,
mais je veux dire,
en fait.
Sur la construction de l'identité, sur le lien affectif, sur le manque de solidarité, parce qu'a priori, une fratrie qui fonctionne normalement, c'est quand même c'est le premier réseau de solidarité, en principe.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que dans le cadre d'un déplacement, comme dans le cadre de la situation qui vient d'être présentée par Janvier, c'est-à-dire qu'on a une double rupture. On a la rupture avec les parents d'origine et on a également la rupture fraternelle. Donc c'est à deux niveaux. Il y a des conséquences, ça c'est certain, de construction des relations affectives qui sont complètement différentes. Lorsqu'on est placé seul dans une famille d'accueil et que ses frères et sœurs sont restés au domicile, par exemple, parental, ça existe, ou qu'ils sont placés dans d'autres établissements ou dans d'autres familles d'accueil, il va y avoir des configurations familiales qui vont se dessiner, fraternelles, pardon, qui vont se dessiner.
Une forme de ressentiment, par exemple, pour les enfants placés par rapport à ceux qui sont restés avec la maman ou le papa ou les deux ?
C'est pas
ce qu'a exprimé Janvier, mais non, pas du tout. Pourtant ça correspond à son histoire.
Oui, mais en fait, c'est pas du tout le cas, en tout cas dans les travaux que j'ai réalisés jusqu'actuellement et la recherche que j'ai menée. Ce que je montre, c'est qu'en fait, les enfants se construisent dans la famille d'accueil ou dans l'établissement avec le réseau de pères. Et ce réseau, il est variable. Il peut y avoir des frères et sœurs d'origine dans la famille d'accueil ou dans l'établissement. Il peut y avoir des enfants de la famille d'accueil aussi. Et puis, il peut y avoir également d'autres enfants confiés. Et l'ensemble de ces enfants, ça forme un groupe de pères, un groupe fraternel. Et donc, il y a des relations d'ordre fraternel qui se tissent entre ces enfants qui sont différentes. Oui. Il y a des enfants qui vont tisser des relations fraternelles qu'avec l'enfant de la famille d'accueil parce qu'il y a une intimité très proche avec cet enfant-là. Et puis, d'autres qui vont tisser des liens avec l'ensemble des membres du groupe, c'est-à-dire enfants de la famille d'accueil, les autres enfants confiés, et qui vont se considérer tous comme des frères et sœurs. Et puis, il y en a d'autres, pas du tout, qui vont considérer comme frères et sœurs, les autres, leurs frères et sœurs d'origine, qui sont soit restés au domicile de la maman, soit qui ont été confiés dans une autre famille d'accueil. Donc, en fait, ce que je montre, c'est qu'il y a différentes configurations fraternelles qui se dessinent en fonction des enfants. Mais une chose est certaine, c'est que le placement séparé des fratries a une incidence indéniable sur les relations que les enfants vont construire entre eux.
C'est-à-dire, ils ont ensuite du mal à construire des relations structurées, ça a un effet sur leur personnalité, par exemple ?
Non, ils n'ont pas de mal à construire de relations structurées, ils vont construire de nouvelles relations fraternelles avec les enfants avec lesquels ils vivent. En fait, ce que je montre, c'est que...
En fait, on recherche le frère et la sœur.
Oui, et puis...
Donc on les trouve ailleurs.
C'est ça, on les trouve... Alors, on n'oublie pas, il n'y a pas d'oubli.
Non, bien sûr.
Mais c'est à un autre niveau que ça se construit. Ce sont des relations électives. Parce qu'on partage, c'est un élément important, on partage le quotidien. Et pour les enfants, le fait de vivre ensemble et de s'aimer et de se soutenir, c'est capital. Et ça, on le vit au quotidien.
Est-ce que les enfants ont une capacité à exprimer leur manque quand on est en amont des décisions de placement, Alexandra Avrilizine ? Est-ce qu'ils disent « moi je veux rester avec mon frère, avec ma sœur, avec mes frères, avec mes sœurs » ou bien... pas tant que ça parce qu'ils se censurent d'une certaine manière, ou on dit beaucoup que l'enfant cherche toujours à rassurer les adultes ?
Oui, mais non, mais quand même, on essaye de quand même donner la parole à l'enfant tout en le laissant à sa place, en lui indiquant, écoute, on va t'entendre. C'est pour ça aussi que moi, j'ai fait partie de l'antenne des mineurs. Donc, c'est-à-dire que le mineur, dans le cadre d'un placement, on lui dit, quand bien même il est tout jeune, on lui dit, écoute, tu vas avoir ton avocat à l'audience. Et on s'entretient avec le jeune et c'est le jeune qui est directement notre client. C'est pas ni son père, ni sa mère, ni quelqu'un d'autre dans la famille. Donc ça, c'est important parce que il se confie à nous. Il nous indique quels sont ses souhaits et on l'écoute. On peut aussi lui indiquer l'avertir de ce qui va pouvoir se passer, de lui expliquer aussi pourquoi peut-être il va y avoir des décisions qui vont lui sembler difficiles, qui vont être prises, mais que c'est dans son intérêt et que même si pour l'instant ça lui semble quelque chose de très difficile, on peut lui expliquer qu'on a eu déjà des cas où des cas à peu près similaires.
C'est ça, il n'est pas seul à vivre cette situation-là.
Voilà, et qu'il y a d'autres enfants qui... parce que évidemment, tout le monde veut rester dans un monde idéal avec son père et sa mère. Néanmoins, il y a des cas extrêmement difficiles et douloureux où c'est indispensable qu'il y ait une coupure. Alors on lui explique qu'il y a un lien qui pourra perdurer, que effectivement ça pourra être un petit peu difficile dans un premier temps, enfin, on lui explique aussi surtout que la situation elle est temporaire. Donc, on va l'écouter à un moment donné. Et dans le premier cas de placement, de toute façon, on reste pas un an sans entendre l'enfant. On le réentend au bout de 6 mois. Et tous les ans, la situation est réévaluée. Et l'enfant, dans le cadre d'un placement aussi, il a un suivi éducatif. Mais bon, ça,
votre invité pourra... Et notamment pour maintenir le lien. Mais on voit bien quand même que, bon, dans l'ensemble, souvent, la loi de 1996 n'est pas respectée. Faute de place, faute d'infrastructure. C'est compliqué de trouver des famille d'accueil qui accueille toute une fratrie.
Voilà, mais parce que le problème, c'est que
s'il y a plus de deux enfants, c'est compliqué.
Voilà, c'est que on a dit bon ben le principe qui est merveilleux, c'est que on garde l'unité. Sauf que le législateur, il a prévu donc bien sûr toujours la petite exception qui peut qui devient un peu la règle, sauf si ce n'est pas possible ou si un intérêt commande une autre solution.
Vous restez avec nous, Perrine Gallet, vous allez nous expliquer dans quelques instants comment fonctionne justement l'ONG SOS Village d'Enfants et comment vous parvenez à faire ce que ne parvient pas à faire l'aide sociale à l'enfance et les pouvoirs publics français finalement, c'est-à-dire être axé avant tout sur l'unité de la fratrie et la réunification des frères et sœurs et sur le long terme, ça aussi c'est très important. Vous nous appelez au 33 1 84 84 22 71 71. Je vais vous redonner le numéro de téléphone WhatsApp. 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous si vous vous reconnaissez dans ces situations. On vous donne la parole en direct. Maybe it's all down to the thought of her. Maybe it's all down to the loss we learned. Knew for a long time for all it's worth. I wanted to run to you. What if I'm caught up and it's me you're calling? What if I'm lost now, plus if demons are coming in? When she kissed me, I felt a new freedom or something. Well, move on. I found a moment to be brave, so I let her know. And she said, how could I love you back? You dropped your dreams in the gutter. And in my winter, she'll be burning slow. Feels like December knows me well. Cause I loved you. Does that mean nothing to you now? Get me back on holy ground. She said, oh, I know that love is all about the wind. How it can hold me up and kill me in the end. Still, I loved it. Does that mean nothing to you now? Days when we all watched till we lost the birds. Threw a rose in till it caught the turn. C'est Dermot Kennedy chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI et on s'interroge sur ces fratries disloquées quand la famille explose pour cause de divorce. C'est la situation la plus banale, la moins dramatique, on l'espère. Et puis aussi pour cause de placement. Beaucoup d'enfants en France sont placés pour cause de dysfonctionnement parental, de défaut d'éducation, de pauvreté aussi. Hein, et bien sûr de maltraitance. Mais ce n'est pas toujours forcément l'essentiel des cas. Et que se passe-t-il pour les fratries? Perrine Gallet, vous représentez l'ONG SOS Village d'Enfants. Vous êtes directrice du village à Marly-les-Valenciennes, c'est dans le nord de la France. Et cette ONG a la particularité de regrouper les fratries qui ne vivent pas avec leurs parents. Ça veut dire que des enfants arrivent, ils ne sont pas séparés, ils ont été séparés de leurs parents, bien sûr. Hein. Vous allez nous expliquer d'ailleurs en général pour quelles raisons. Et vous accueillez toute la fratrie dans des maisons avec des assistantes. Comment vous arrivez à réaliser ce que n'arrive pas à réaliser le reste du pays?
Alors, je ne dirais pas ce que n'arrive pas à réaliser le reste du pays. Ce qui est important, c'est qu'on est, on est partenaire de l'aide sociale à l'enfance, hein, qui finance les établissements d'ailleurs SOS Village d'Enfants, au même titre que d'autres structures d'accueil et de placement. Alors, j'ai envie de dire deux portes d'entrée pour les enfants qui arrivent en village d'enfants. Soit effectivement un placement direct, où on a une demande de l'aide sociale à l'enfance pour accueillir l'ensemble de la fratrie. Mmh. Alors, la fratrie peut aller de 2 à 6, 7, 8, voire plus d'enfants, hein, en fonction des configurations. Soit des enfants qui sont déjà séparés par le placement et qui sont séparés, ça peut être effectivement l'un en famille d'accueil, oui. Un autre dans un établissement, encore un autre dans un autre établissement.
Ça peut être des demi-sœurs, des demi-frères.
Oui, tout à fait. Aussi. Tout à fait. Tout à fait. On accueille aussi des enfants qui sont d'une fratrie élargie.
On vous confie les familles, les fratries les plus dans les situations les plus difficiles. On considère qu'ils doivent être réunis parce que la situation familiale a été particulièrement dramatique ou pas forcément ?
Alors, je dirais que les villages d'enfants accueillent des situations donc qui nécessitent un placement. De manière générale, l'association... De fait, elle propose un accueil de type familial, où les enfants vont pouvoir se poser et où on part du principe que pour se construire, les enfants, ils ont besoin de nouer un lien affectif avec les enfants.
Et quelles sont leurs histoires à ces enfants ?
Alors, bah, y a toutes sortes d'histoires. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de profil d'enfants qu'on pourrait... Enfin voilà, il n'y a pas de résumé. On peut avoir effectivement des enfants qui sont chez nous parce que à un moment donné, il y a des carences familiales. On a aussi des parents qui vivent le décès de leurs parents aussi, hein, qu'on peut accueillir en village d'enfants. Des situations dont la situation familiale se dégrade. Donc on accueille de manière générale des enfants sur...
Vous en parlez avec des termes très pudique. Pourquoi, dans le fond ? Parce que la réalité, elle est très crue, souvent.
La réalité, effectivement, est très crue. Maintenant, on n'est pas... On travaille aussi le lien avec les parents, parce qu'il est important pour les enfants. Et on ne juge pas les parents, quelles que soient les situations qu'ils ont vécues ou qu'ils ont fait vivre à leurs enfants. Notre travail, c'est aussi de pouvoir maintenir ce lien avec eux.
C'est pour ça que les mots doivent être pudiques pour maintenir la dignité des parents, quelle que soit la situation, quoi qu'il arrive aussi.
Je ne sais pas si les mots doivent être pudiques. On travaille aussi avec...
Vous avez des enfants qui sont battus dans leur famille, par exemple, pour parler simplement.
Tout à fait. Okay. Au moment de l'admission des enfants, on travaille aussi avec les parents les motifs du placement. Hein, on reprend les motifs du placement. Et il y a un travail qui s'engage avec les enfants et avec les parents sur cet aspect qui est très très important. Mmh. Aussi pour permettre aux enfants de se construire avec leur histoire et de pouvoir avancer.
Alors, comment vous faites pour accueillir tous les enfants dans ces cas-là, dans une même maison, hein, c'est au sein d'un village, mais chaque fratrie va avoir une mère de substitution d'une certaine manière.
Oui, tout à fait.
Vous ne l'appelez pas comme ça.
Alors, on appelle effectivement les personnes qui accueillent les enfants, on va dire dans la durée, les éducatrices familiales ou éducateurs familiaux, puisque c'est un métier qui est ouvert et aux hommes et aux femmes, et qui vont effectivement accueillir les enfants dans une maison, qui va être la maison des enfants. Ça, c'est très important. Ça veut dire que quand ils arrivent, c'est leur espace, c'est leur maison. Ils vont investir leur chez eux, leur chambre, s'y installer pour pouvoir se poser, parce que c'est très important pour les enfants quand ils vivent au début du placement, qu'ils puissent se poser, qu'ils puissent effectivement travailler aussi leur histoire.
Et l'assistant familial, il est avec eux 24 heures sur 24, comme le ferait un parent d'une certaine manière, mais avec le soutien du reste du village, de la structure de l'ONG autour.
Tout à fait. Alors l'éducatrice familiale qui vit avec les enfants au sein de la maison et avec eux sur un rythme à peu près de 3 semaines d'affilée 24 heures sur 24, hein, où elle va faire comme un parent, accompagner les enfants autant dans le quotidien, dans l'affectif, que dans la scolarité, les repas, l'école, les loisirs, pour vraiment proposer aux enfants un accueil de type familial. Ça, c'est très important.
Physiquement, toutes ces maisons-là sont sur un même site, hein.
Alors physiquement, toutes ces maisons-là sont sur un même site. En fonction des villages d'enfants, soit effectivement on est sur des maisons qui sont un petit peu regroupées, soit on est sur des maisons qui sont totalement... de manière générale, les villages d'enfants sont totalement intégrés dans les cités. L'idée, c'est que les enfants ne soient pas stigmatisés aussi comme des enfants placés et qu'ils puissent, voilà, qu'ils puissent vivre une enfance comme tout le monde. Au village d'enfants de Marly, par exemple, les enfants ne disent pas qu'ils sont du village d'enfants. Les maisons ne sont pas visibles. Ils invitent les copains de l'école à la maison et réciproquement, ils sont invités. Et c'est quelque chose qu'ils ne disent pas et on est très attentif aussi à ça. Ouais,
et ça, c'est très important, effectivement, pour les enfants, d'être comme les autres, quoi qu'il arrive. Et c'est d'autant plus réalisable lorsqu'on vit avec ses frères et ses sœurs. On est en ligne avec une autre directrice de village d'enfants au Togo. Bonjour, Essouna Bakusa Manzinika. Vous êtes bien en ligne avec nous au Togo, à Lomé ? Est-ce qu'on a bien en ligne la directrice de SOS Village d'Enfants Togo ? Il semblerait qu'on ait un petit problème avec la ligne, non ? Essouna Bakusa Manzinika, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que vous êtes en lien avec nous ? Bon, alors on va essayer de la reprendre tout à l'heure. Mais concernant le personnel qui s'occupe de ces enfants-là, alors bien sûr, on retrouve ces personnels sur le reste du territoire français pour l'aide sociale à l'enfant. Hein, les familles d'accueil, elles existent. Mais chez vous, il y a une formation particulière de ces assistants familiaux. Il y a un rôle de la structure pour appuyer, parce que c'est du boulot, hein, 3 semaines 24 heures sur 24, et puis ensuite une petite pause avec un autre assistant qui se relaie, etc.
Il y a d'abord, je dirais, l'engagement dans la durée des professionnels aussi.
Dans la durée, parce que ces enfants restent placés en moyenne combien de temps ?
Alors, au village d'enfants de Marly, on est sur une moyenne de placement à peu près de 8 années.
Et c'est vraiment le temps pour un enfant de se construire, de se reconstruire.
Je dirais tout dépend des situations familiales et de placement. On est vraiment sur une moyenne. Autant on peut avoir des enfants qui vont arriver tout petits et grandir chez nous parce que malheureusement les liens familiaux ne permettent pas de reconstruire des choses. Autant on a aussi des belles histoires où on a une mobilisation des parents et où on peut travailler le retour à domicile. Je parlais de l'engagement des professionnels qui est important parce que les enfants ils s'attachent. Aux adultes et pour bien grandir ils ont aussi besoin de s'attacher donc effectivement on a les éducatrices familiales qui sont présentes auprès des enfants 24 heures sur 24, 3 semaines d'affilée. On a aussi des aides familiales qui viennent relayer leurs collègues quand elles partent se reposer hein, sur des rythmes à peu près de 8 jours après leur 3 semaines. Et puis effectivement on a aussi une équipe pluridisciplinaire qui est là pour soutenir
des professionnels de l'enfance,
des professionnels de l'enfance de tous horizons, psychologues, éducateurs spécialisés, éducateurs scolaires.
Ouais. Alors on va donner la parole au Togo, ça y est, on a retrouvé Essouna Bakusa Manzinika. Vous êtes bien en ligne avec nous ?
Je suis bien en ligne, bonjour.
Bonjour à vous. Vous êtes donc directrice de SOS Village d'Enfants au Togo, qui existe depuis 40 ans. Il y a 10 maisons familiales à Lomé, mais vous êtes aussi présent dans 4 villes du Togo. En quelques mots, par rapport à ce qu'on a entendu sur la France, quelles sont les histoires, les situations de ces enfants placés chez vous au Togo ? Est-ce que c'est très différent ou pas ?
C'est pas aussi différent que ça, mais ce qui se passe, c'est qu'au Togo, nous n'avons pas. C'est vrai que le Code de l'enfant reconnaît la famille comme étant une des fondamentales de la société pour la prise en charge des enfants, mais la loi ne prévoit pas, contrairement à la France, que les enfants ne soient pas séparés, que leurs familles ne soient pas séparées.
Oui. Alors on a vraiment un problème de ligne téléphonique, on va essayer de vous rappeler. Alors la loi prévoit en effet, la loi de 1996, on en parlait en France, prévoit que les fratries en principe ne doivent pas être séparées sauf raison impérative, mais on l'a bien dit, hein, cette loi elle n'est pas respectée, faute de placement, faute de moyens, d'organisation aussi de l'aide sociale à l'enfance. Vous souhaitiez intervenir, est-ce que Nathalie Chapon, je crois que vous souhaitiez intervenir quand on a retrouvé notre ami au Togo.
Oui, je voulais juste dire en fait que l'organisation de SOS Village d'Enfance, il y a une éducatrice familiale hein, qui est présente pendant 3 semaines, 24 heures sur 24. Et en fait, on n'est pas sur une mère de substitution, parce que tout à l'heure vous avez utilisé la notion de substitution. On est comme dans le cadre de l'accueil familial, de toute manière, sur une situation de suppléance parentale et familiale. C'est-à-dire que l'éducatrice qui va s'occuper de l'enfant pendant ces 3 semaines, elle supplée les parents qui, à un moment donné, sont défaillants défaillants dans l'exercice de leurs compétences parentales. Et même si ça dure pendant 8 ans, qui est la moyenne générale, visiblement, la durée des placements des enfants, ce qui est quand même long, on est sur des placements longs, on est quand même, malgré tout, sur un modèle de suppléance et non pas de substitution. Parce que la substitution, c'est vraiment quelque chose où je remplace la famille d'origine.
Néanmoins, on l'a dit, il faut que l'enfant s'attache, il faut qu'il y ait Donc, part, entre la suppléance et la substitution, on est vraiment sur des mots avec des différences assez tenues.
Oui, mais c'est important, parce que c'est important de le souligner quand même. Et ce qui est important pour l'enfant, c'est de développer des liens dans la famille d'accueil, dans le cas de SOS.
Et qu'ils sachent qu'ils ont toujours une famille biologique quand c'est le cas.
Mais les enfants le savent, de toute manière. Ils font très très bien la différence. Et quand on leur pose la question, ils savent très bien qui est leur mère d'origine et qui est l'assistant familial qui s'en occupe, qui lui donne de l'affection, qui est présente au quotidien, etc. Ils font vraiment la part des choses. Vraiment.
Vous restez avec nous, on donne le numéro de téléphone qui est aussi le WhatsApp pour les auditeurs qui veulent témoigner. 33 1 84 22 71 71. Dans quelques instants, on accueille une voisine qui nous appelle de Yaoundé.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Armel est en ligne avec nous à Yaoundé au Cameroun. Bonjour Armel.
Bonjour Anya Baptiste.
Armel, vous avez 43 ans aujourd'hui. Vous avez été placée quand vous aviez 11 ans.
Oui, c'est ça.
Chez un parent, chez votre oncle, je crois.
Chez un oncle, oui, en effet.
Oui. Est-ce que vous savez pour quelle raison à l'époque vous avez été placée?
Parce que mon papa venait de perdre son emploi. C'était difficile à la maison.
Oui.
J'étais en 9, puis les parents 11.
Ouais.
Donc, vous imaginez bien avec une seule source de revenus, puisque mon maman ne travaillait pas.
Oui.
Et papa a perdu son emploi. Il devenait donc difficile de nourrir tout ce beau monde. Donc,
bien sûr. Neuf frères et sœurs, effectivement. Donc, vous avez été placés pour des raisons économiques. Les autres frères et sœurs, ils ont été placés aussi ou,
Oui, il y en a.
Tout le monde a été placé.
Non, pas tout le monde. Certains, les aînés. Parce qu'après, moi, il y a deux filles qui ont été placées. Les autres sont restées avec les parents.
C'est ça. Les plus petits, les bébés sont restés avec les parents. Comment vous avez vécu à la fois cette séparation avec vos parents et cette explosion de la fratrie?
J'ai vécu ça assez difficilement. Vous imaginez bien, à 11 ans, j'étais jeune. Et aller comme ça, vivre avec des parents inconnus, donc c'était pas évident. Donc, du coup, j'avais du mal à me trouver une place dans cette nouvelle famille d'accueil. Et puis à la maison, j'étais un peu comme, vous avez un peu la bonne bâtissière, quoi, la bonbonne, quoi. C'est moi qui me chargeais d'aider tous les autres enfants de la famille, je chargeais des tâches qui étaient beaucoup trop lourdes pour un enfant de mon âge, vous imaginez bien. Et puis, heureusement pour moi, je trouvais un petit réconfort à l'école, parce qu'à l'école, je travaillais bien, et ce qui me valait l'admiration de mes enseignants et des voisins, puisqu'on habitait un campement dont tout le monde se connaissait.
Est-ce que vous étiez physiquement très éloigné de vos frères et sœurs d'origine, de votre famille?
Oui, nous étions assez éloignés, peut-être 30 km. Et c'était un peu en bouche, quoi. Il n'était pas facile pour moi d'aller et de venir.
C'est ça. Vous ne pouviez pas, du haut de vos 11 ans, aller retrouver vos frères et sœurs pour trouver du réconfort.
Voilà, c'est ça.
Avec le recul, comment vous en êtes sortie, Armel? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme relation? Est-ce que vous avez retrouvé votre fratrie, reconstruit quelque chose avec vos frères et sœurs avec qui vous avez peu grandi, finalement?
Non, en fait, je n'ai jamais retrouvé de manière totale. Tu sais, je revenais juste quelques jours de vacances et je repartais aussitôt.
Oui.
Donc, on ne peut plus jamais rester sur le même toit toute une année entière. Donc, je partais, je revenais. On faisait le bonheur de ma maman. Mes frères et sœurs me regardaient. J'étais une parfaite étrangère. Ils me regardaient. C'était toujours curieux. De me rendre engagée. C'était pas un élan d'amour, d'affection. Donc, moi, je suis tout le temps contente de les retrouver. Et avec le recul aujourd'hui, j'ai grandi. Et à un moment donné, mes parents, jusque-là, la situation économique n'était pas très bonne. Mais je faisais des petits boulots et j'ai dû prendre sur moi. Donc, c'est un travail de la famille. C'est moi qui donnais des conseils. C'est moi qui, puisqu'à l'école aussi, je réussissais bien. J'étais curieux. Et puis aussi, j'avais beaucoup grandi à maturité.
Oui.
Et devant cette ambiance que je vivais là-bas chez les hommes, je travaillais beaucoup. Ce qui se passe aujourd'hui, je suis abonné à tout faire. Je peux travailler toute une journée, je n'ai pas de repos. Et ça me vaut parfois l'admiration de mes parents. Mais par contre, mes frères et sœurs ne connaissent pas ça. Et ils sont beaucoup trop paresseux, beaucoup trop douillets. Et j'ai pris certains sous ma responsabilité. J'ai dû payer les études et tout. Mais aujourd'hui, je sens comme un éloignement n'est pas complice. Et pourtant, j'aimerais bien.
Vous aimeriez retrouver cette complicité perdue à jamais avec vos 9 frères et sœurs, finalement. Parce que vous avez été exploitée dans votre famille d'accueil et étrangère dans votre famille d'origine. Et même si aujourd'hui, vous avez vous êtes estimée pour votre réussite, pour l'aide que vous apportez à vos frères et sœurs, d'une certaine manière, il n'y a plus cette complicité. C'est ce que je comprends de votre histoire, Armelle.
Oui, ouais. C'est vrai, en fait. Mm. Et moi aussi, même dans ma vie personnelle, j'ai eu du mal à me construire des relations sur le plan personnel. Mm. Parce que je fais trop lié, je connais plutôt ma famille, sur mon épaule. Et les hommes qui ont traversé ma vie trouvaient que j'en faisais trop et qu'il n'y avait pas assez de place pour eux.
Ah,
donc,
oui.
Du coup, j'allais d'échec à échec.
Ah, oui.
Donc, c'était pas évident. Oui.
Échecs sentimentaux, donc. Hein. C'est-à-dire, vous avez du mal à construire votre vie sentimentale à cause de ça.
À un moment donné, j'ai dû prendre beaucoup de recul. J'ai dit, je fais beaucoup de violence pour pouvoir vivre pleinement la nouvelle relation d'amour que j'ai en ce moment. Je fais beaucoup de violence. Parfois, il y a des moments où j'ai dit, bon, écoutez, allez là-bas, moi, je vais vivre ma vie.
Bon.
Parce qu'après tout ça aussi, j'ai eu beaucoup trop d'échecs. Parce que après, je n'ai pas été satisfaite. Beaucoup de déceptions. Mes frères n'ont pas eu la réussite que je voulais qu'ils aient. C'est ça là aussi. Parfois, je me dis, j'ai beaucoup sacrifié pour pas grand-chose.
Vous êtes Oh mais si, forcément, mais vous êtes une mère, vous êtes une grande sœur et une mère en même temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur vos épaules. Peut-être qu'il faudrait poser une partie de tous ces paquets-là, Armelle. En tout cas, c'est une belle leçon de résilience. Le témoignage d'Armelle, je ne sais pas comment vous réagissez à ce témoignage, Nathalie Chapon, Perrine Gallet et Alexandra Avrilizine, mais on voit bien aussi que ces enfants-là, ils grandissent très vite, parfois un peu trop vite.
Ben, ils n'ont pas vraiment le choix, je crois que, bon, sans être sociologue, simplement en étant simplement aussi un être humain et une maman, quand les enfants se retrouvent dans une situation où, ils sont quand même isolés et où, de toute façon, ils doivent prendre sur eux et quelque part aussi où ils ne sont plus dans une position d'enfant. Votre auditrice, malheureusement, nous racontait que aussi, on lui a attribué un rôle qui était un peu aussi d'être. La bonne, en tout cas une aide pour la maison. Donc,
c'est pas un cas isolé. Hein.
Voilà, mais ça, c'est malheureusement, c'est lamentable parce qu'une enfant de 11 ans doit rester à sa place d'une enfant de 11 ans. Alors, effectivement, qu'elle aide un petit peu à la maison, ça fait partie de l'éducation, de débarrasser son assiette, etc. Mais de là à devenir une aide ménagère, c'est scandaleux.
Oui, l'enfant dans la famille d'accueil, pas facile aussi de se faire une place, Perrine Gallet.
Moi, je voulais rebondir effectivement aussi sur ces propos, puisque effectivement, ce sont des enfants les enfants qui sont placés en protection de l'enfance, des enfants à qui on va demander de grandir plus vite que les autres. Si on prend aujourd'hui la moyenne nationale des jeunes, quand ils partent du domicile parental, c'est en moyenne 26-28 ans. À l'heure actuelle. Or, en protection de l'enfance, on va être aux alentours des 18-21 ans en fonction, en fonction des départements et des situations. Donc, effectivement, ce sont des jeunes à qui on va demander de se construire beaucoup plus vite que les autres, de grandir beaucoup plus vite. Et c'est là que la fratrie, je dirais, est ressource aussi pour eux. Parce que, d'abord, le lien fraternel, c'est celui qui perdure le plus dans la vie. En cas de difficulté de l'un ou l'autre, quand ils sont à la fois enfants ou jeunes, mais aussi adultes, quand ils se construisent dans la vie d'adulte, la fratrie fait ressource. Ça veut dire qu'un jeune, quand il a une difficulté, même quand il... Enfin voilà, passé 25 ans, ouais. Passé une trentaine d'années...
Vous les voyez revenir au village, chez vous?
Oui, alors quotidiennement.
Quand ils sont adultes?
Tout à fait. On a pas mal de recul sur le village d'enfants de Marly, puisqu'il existe depuis 1963. Donc il y a énormément d'enfants et de fratries qui ont grandi chez nous et qui ont tissé des liens. Et ce lien est très important parce qu'effectivement, quand il y a une difficulté, ils savent qu'ils peuvent à la fois compter sur leur fratrie, mais aussi sur le village d'enfants.
Et alors, c'est intéressant parce que Perrine Gallet, vous disiez tout à l'heure que les enfants qui sont accueillis chez vous, en moyenne, ils restent 8 ans. En tout cas, si tout se passe bien, ils ne sont jamais changés de famille. Ils restent dans le village SOS, village d'enfants, et puis avec le référent, l'assistant, l'assistant d'éducation. Comment expliquer, Nathalie Chapon, que dans le système français, très souvent, les enfants, vous le disiez à Alexandra Avrilizine, la situation est réévaluée par le juge des enfants, par l'aide sociale à l'enfance, mais ça conduit souvent à des changements répétés de famille d'accueil, en dépit d'ailleurs de ce que peuvent dire les enfants, qui souvent disent « moi j'étais très bien dans cette famille ». Comment on explique ça, Nathalie Chapon?
Comment on explique les changements de placement dans des familles d'accueil?
Parce que c'est dramatique pour les enfants.
En principe, on ne devrait pas changer les enfants de famille d'accueil. On a encore des situations où, en effet, où il y a des déplacements qui se font d'enfants. Après, il y a de multiples raisons. C'est pas forcément lié à la fratrie.
Non, bien sûr.
Voilà, il y a des multiples raisons qui font qu'à un moment donné, si c'est un adolescent, il y a des fugues répétées, difficile d'accepter les règles qui sont dans la famille d'accueil, etc. On peut se retrouver donc avec des situations de placement de cet enfant dans une institution, par exemple, dans un établissement. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de situations, enfin beaucoup, non. Il y a eu des situations aussi à un moment donné où on a enlevé des enfants, enfin on a séparé des enfants dans des familles d'accueil parce qu'on disait qu'il y avait trop d'attachement. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui quand même, il faut quand même le dire, parce que l'aide sociale à l'enfance et l'ensemble des associations qui travaillent avec l'aide sociale à l'enfance est très sensibilisée, de plus en plus sensibilisée à la question des relations et de l'importance des relations et l'importance de se construire avec une nouvelle figure d'attachement. Moi, c'est ce que je défends dans l'ensemble de mes travaux de recherche. Et vous disiez tout à l'heure que l'enfant, pour un enfant dans une famille d'accueil, c'est pas facile de se faire une place. Or, moi, ce que je montre, c'est que c'est une relation singulière. La famille d'accueil, elle va construire une relation singulière avec un enfant. Elle va en accueillir un, deux, trois, quatre. Mais avec un des enfants, il va y avoir quelque chose de particulier qui va faire que cet enfant-là va se construire complètement dans cette famille et va se considérer comme faisant partie de cette famille, si vous voulez. Et donc, il y a différentes, là aussi, comme il y a différentes relations fraternelles dans la famille d'accueil, entre les enfants entre eux, il y a aussi différentes relations familiales dans la famille d'accueil avec les différents enfants confiés. On ne va pas travailler, on ne va pas s'attacher aux enfants de la même manière. Voilà. Et oui, quand on a un enfant qui arrive tout petit, qui a quelques mois et qui va rester jusqu'à ses 17-18 ans dans la famille, et quand on a un ado qui arrive, on va pas s'attacher et travailler avec cet enfant de la même façon.
Donc, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais vous lire quelques messages qui nous parviennent parce que certains ne tiennent pas à témoigner en direct. C'est vrai aussi que ça remue des choses forcément un peu douloureuses. C'est le cas de Jocelyne qui est à Kinshasa. Elle dit on est né à 4, une famille, 3 filles, 1 garçon. Nous avons perdu notre maman très jeune, donc ma sœur cadette, écrit Jocelyne, est allée vivre aux États-Unis chez la sœur de notre maman qui n'a pas eu d'enfant alors qu'elle n'avait que 8 ans, et depuis on se parle très peu. Elle a reçu une éducation tellement différente de la nôtre, elle n'a pas cette affection fraternelle. Je conseillerais à tous les parents de laisser les enfants grandir ensemble jusqu'à un certain âge. Mon père dit que c'est la plus grande erreur de sa vie. Voilà, on voit bien comment ça peut être encore très douloureux, y compris pour les enfants qui sont restés avec les parents. Un autre témoignage de Dakar, anonyme, placé chez ma tante, nous dit ce voisin ou cette voisine à 8 ans, après un divorce de mes parents, je regrette de ne pas avoir de proximité avec mes frères, je ne souhaite pas ça pour mes enfants. Voilà. Un mot de conclusion, on arrive bientôt au terme de cette émission. Qu'est-ce qui finalement aujourd'hui... On dit beaucoup que la situation s'est tendue du côté de l'aide sociale à l'enfance, que la précarité aussi des familles s'est accrue. Perrine Gallet, aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus dur qu'avant ou vous restez malgré tout optimiste ?
J'ai pas la sensation que ce soit plus dur qu'avant. Effectivement, on reste malgré tout optimiste. Je pense que l'aide sociale à l'enfance, comme les partenaires, comme les associations, travaillent ensemble pour que les enfants puissent être accueillis dans des bonnes conditions.
Voilà, ben moi je pense je rejoins votre invité également. Je pense pas que il y a eu une évolution particulière. Je pense que c'est assez stable et heureusement qu'il n'y a pas une inflation de cas de placement, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit rester vraiment quelque chose d'exceptionnel.
Nathalie Chapon, il nous reste quelques secondes pour conclure.
Oui, je partage tout à fait aussi les points de vue qui viennent d'être présentés. Moi, ce que je dirais, c'est que la question des fratries aujourd'hui dans la protection de l'enfance, c'est une vraie question, une question centrale qui mobilise l'ensemble des partenaires. Il y a différents colloques qui ont eu lieu ce dernier mois, là, au mois de novembre, là, sur ces questions, sur la question des fratries, et on en prend vraiment conscience.
Il est temps de prendre conscience de l'importance des fratries. Merci en tout cas à toutes les trois, Nathalie Chapon, Alexandra Avrilizine et Perrine Perrine Gallet pour SOS Village d'Enfants. Merci à toute l'équipe également. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions en podcast. Demain, 7 milliards de voisins, le plaisir féminin est-il encore un tabou de société? Vous aurez la parole en particulier.